9h-10h, à votre service avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Vendredi 16 novembre 2018, Maître Serrane est ravi de vous accueillir, mes amis. Je vais, puisque... Ah, on me dit que ça marche pas.
Non, votre micro n'est pas bon, Maître Serrane.
Si, oui.
Ah, voilà, là c'est bien.
C'est que vous avez... Donc, je reprends alors.
Vous voulez qu'on fasse?
Allez, j'attaque tout de suite, c'est pas grave. Donc, je disais, vendredi 16 novembre 2018, Maître Serrane est ravi de vous accueillir, mes amis. Et je vais, puisque c'est le concept de cette émission, tenter de répondre à vos interrogations. Mais avant de vous inviter à nous contacter, je suis contraint, mon cher Philippe, de vous informer qu'une plainte à votre encontre pour harcèlement moral a été déposée par un avocat qui n'est autre que Maître Serrane Mohamed. Est accessoirement
votre
mon frère. Ouais, normal. Ouais. Oh là, j'étais obligé. Pourtant, je vous assure, mon cher Philippe, que je vous aime bien. Mais ce que vous avez fait dimanche dernier est intolérable. Et je sais que nos auditeurs intrigués aimeraient savoir ce qui a pu se produire pour que Maître Serrane poursuive Monsieur Philippe Robichon. Donc voilà ce qui s'est passé. Samedi dernier, d'abord, 19h13. Vous m'envoyez un SMS.
Non, non.
Vous m'envoyez un SMS pour me dire si je souhaite intervenir sur les commémorations. Ah, je dis tout! Sur les commémorations de la Première Guerre mondiale, et notamment rappeler qu'un nombre non négligeable de soldats issus des colonies ont participé à cette guerre. Et moi, je dis, oui, Philippe, ça m'intéresse. Le lendemain, dimanche, vous m'envoyez un SMS. Il est 6h42. Je l'ai gardé, hein. Pour savoir si je dors. Bah, tiens la bonne blague. Mais qui dort à 6h42 le dimanche? Personne, bien sûr.
Novembre, moi.
Ah oui, le 11 novembre, personne, bien sûr. Alors, je rappelle, hein. Nous sommes dimanche, et comme je le fais très régulièrement, j'ai fait mon devoir conjugal, mon cher Philippe, de 22h à 5h du matin, donc j'avais peu dormi. Eh oui, Maître Serrane ne fait pas les choses à moitié. Je sais, les mauvaises langues diront que je suis un vantard. 8h13, nouveau message de votre part. Mourad, tu dors? Moi, je me dis, écoute, appelle Felipe, qu'est-ce qui se passe? Je vous passe donc un coup de fil. Alors Mourad, ta chronique est prête? Mais Philippe, quelle chronique? Tu m'as demandé une intervention, pas une chronique. Mais non, Maître Serrane, une de tes fameuses chroniques, je veux. Bon, mais j'aurais pas le temps de préparer, Philippe, laisse tomber. Écoute, t'inquiète pas, il te reste 15 minutes. 15 minutes? Je décide donc de me préparer un café. Alors, pas pour le boire, mais pour me le lancer en pleine face, pour me réveiller. Je prépare ma super chronique en à peine 10 minutes. Je suis inspiré comme jamais. J'avais évoqué l'avenue du Premier ministre algérien, du roi du Maroc à ces cérémonies en disant que ces derniers n'avaient probablement plus de nef. Vous savez, Philippe, le nef, cette fierté qu'on avait. Bah oui, comment peut-on se rendre aux commémorations de la fin de la Première Guerre mondiale alors que la France se fout, mais royalement, des Mohamed, des Mustapha, des Mamadou morts pour ce pays. Vous savez, mon cher Philippe, il m'arrive parfois de penser que la colonisation est toujours présente à un degré supérieur. Auparavant, il s'agissait d'une colonisation du territoire. Aujourd'hui, c'est une colonisation des esprits. Et ça, c'est plus difficile à combattre. Il suffit d'ailleurs de voir l'échange entre Macron et ce vétéran qui lui demandait « Oh, à quel moment on va se débarrasser des migrants ?»« Oh, mes pauvres comptes vétérans, t'oublies que si t'es vivant, c'est peut-être grâce à un grand-père de l'un de ces migrants. » Bref. Ma chronique était objectivement excellente, comme d'habitude, et je vous appelle pour vous dire « Eh, c'est bon, je suis prêt, mon cher Philippe. Réponse. Ah, Mourad, tu vas rire. Pas d'émission. » D'accord. Si ça, c'est pas de la maltraitance, mon cher Philippe, qu'est-ce que c'est? Bon, allez, allez. Je suis pas rancunier, je vous pardonne, et j'invite maintenant nos auditeurs à appeler le 01 53 48 3000 pour poser les questions. Émission sous le contrôle du tyran Philippe Robichon, Beurre FM. C'est tout droit. C'est parti.
Maître Serrane répondra à vos questions tout à l'heure au 01 53 48 3000. Donc, je vous avais prévenu, Mourad. Serrane, je vous avais prévenu.
Non, mais de quoi?
Si vous dites quelque chose qui me dérange, je dis ce qui s'est passé chez votre coiffeur.
En voilà. Quoi c'est dérangeant?
Et votre coiffeur vous a manqué de respect, Maître Serrane.
Franchement, oui.
Et votre public veut le savoir.
Je vous jure, c'est vrai, il m'a manqué de respect.
Bon, désolé pour dimanche matin, pour tous ceux qui nous attendaient, mais notre réalisateur s'est pas levé.
Ouais.
Donc nous, on était là à 7h du matin, on attendait, il s'est pas levé.
Bah, c'est comme ça.
T'es levé à midi. Midi pour 9h, c'est...
Ça va quand même.
C'est pas vrai.
Ouais,
et Maître Serrane, lui, était là avec nos invités pour l'émission du 11 novembre.
N'est-ce pas?
Mais le réalisateur s'est pas levé.
Ouais, mais il va repasser là bientôt, là, j'ai envie de le voir. Donc je vais rester.
Il aura besoin d'un bon avocat.
Ouais, d'accord.
Je pense
ouais.
qu'il a passé la soirée sur sa... Comme un truc de jeu, là, ça...
Sa console de jeu.
Ouais,
comme tous les gamins un peu débilos, quoi.
Mais bon, c'est ça.
Qu'est-ce que vous voulez, c'est générationnel.
Bien, Maître Serrane, oui. On va parler du recouvrement de la pension alimentaire. Et si on en parle ce matin, c'est parce que ça a une incidence sur les demandes de régularisation des personnes qui souhaitent pouvoir être en règle avec la préfecture. Alors déjà, comment est-ce qu'on fait quand on a une pension alimentaire qui est impayée?
Oh, alors ça arrive dans quelle hypothèse? Vous étiez marié, procédure de divorce, il y a une pension alimentaire qui repose sur vos épaules. Alors, vous n'êtes pas marié, mais vous avez des enfants, il peut y avoir également une pension alimentaire. Donc le principe étant que j'ai une pension alimentaire sur mes épaules, je dois en principe la régler sans difficulté. Bon, ça arrive pas toujours spontanément. Il est bon quand même, avant de lancer les hostilités, d'aller voir l'avocat ou d'aller voir un huissier de justice, peut-être d'envoyer un petit courrier à la partie adverse, vous voyez, le côté un peu conciliation. C'est toujours bon et c'est même toujours apprécié par les autorités judiciaires si vous devez vous retrouver devant un tribunal. Vous envoyez le courrier, pas de réponse. Ensuite, on passe, comme on dit, à l'artillerie lourde. Alors d'abord, il y a une artillerie lourde qu'est la CAF, la Caisse d'allocation familiale. Alors ça, c'est très intéressant parce que c'est pas si vieux que ça. Et ce service va se charger de recouvrir cette pension alimentaire. C'est-à-dire que toutes les démarches, vous n'aurez pas à les faire. À charge pour vous de vous présenter à la CAF avec votre belle décision. Et puis, c'est la CAF qui va faire le nécessaire. C'est la CAF qui va essayer de recouvrir ça. Il faut savoir qu'elle a quand même des moyens beaucoup plus importants que vous. Donc, le système est très intéressant et sincèrement, ça facilite la vie des uns et des autres. Si vous ne passez pas par les services de la CAF, il va falloir passer par un huissier. Et l'huissier a plusieurs options.
Il y a un site pour la CAF. pension-alimentaire.caf.fr.
Et qui est extrêmement bien fait.
Ouais, je vous l'ai dit, il est très très bien fait. Donc j'étais même surpris. Ouais.
Faut vraiment pas hésiter à... J'ai l'impression que le premier réflexe, alors c'est pas plaider, j'ai presque dire pour ma mosquée, dans d'autres circonstances j'aurais dit aller voir l'avocat, mais qu'on le veuille ou non, le premier réflexe c'est de se rapprocher de la CAF. En dehors de ça, vous avez la possibilité de procéder donc à une saisie. Encore une fois, quand je dis une saisie, c'est toujours via un huissier de justice. Donc, à une saisie des comptes bancaires. Mais c'est comme tout. C'est-à-dire qu'on ne tombe pas un œuf. S'il n'y a rien sur le compte bancaire, la banque répondra que le compte est à zéro ou que le compte est négatif. Donc là, vous n'aboutirez à rien. Si, par extraordinaire, le débiteur travaille, vous avez aussi la possibilité, toujours via l'huissier de justice, vous avez toujours la possibilité ensuite de procéder éventuellement à une saisie sur salaire. Alors, il y a ce qui s'appelle...
Mais à partir de combien de mois on peut le faire de retard? Parce que s'il n'y a qu'un mois de retard, est-ce qu'on va chez l'huissier ou il faut attendre qu'il y ait...
Un mois de retard, n'allez pas au-delà. Je vais vous dire tout simplement pourquoi. Parce que c'est... Même si vous dites, j'ai n'importe quoi, j'ai eu l'intéressé au téléphone, il m'a dit que pour
il
l'instant
faire,
c'est passager,
ouais.
Voilà, je vais le faire, t'inquiète pas, ceci ou cela. Je vais dire tout simplement pourquoi. Parce que si vous attendez un mois, deux mois, trois mois, même lorsque vous allez engager votre procédure, d'abord, vous perdez beaucoup d'argent, mais même lorsque vous allez engager votre procédure, et si vous retrouvez devant un magistrat, et notamment devant un juge qui s'appelle le juge de l'exécution, légitimement, il peut se poser la question et vous dire, mais pourquoi vous êtes réveillé si tard? Alors ça peut sembler entre guillemets impitoyable, mais n'attendez pas vous d'être en grosse difficulté puisque demain faudra expliquer simplement le fait que je ne me suis pas réveillé en temps et en heure. Vous voyez comme le type du samedi qui s'est pas réveillé en temps et en heure. Hein, je suis un peu rancunier. Hein. Mais voilà, donc c'est vrai qu'il faut faire attention à ça. Donc à partir du moment où vous avez un mois qui n'a pas été réglé, faut pas hésiter donc à entamer les démarches. Donc possibilité de faire toutes ces procédures. Et puis si vraiment votre débiteur est un grand malin, il s'est organisé
peu de chance, votre débiteur c'est votre ex-mari.
Mais s'il est, alors d'abord c'est vrai que spontanément dans le cadre d'un litige, on n'a pas envie de payer et de donner une pension alimentaire puisque souvent, alors d'abord c'est souvent monsieur qui est condamné et puis monsieur a l'impression que cet argent revient qu'à madame. Je rappelle parfois à mes propres clients que cet argent est destiné aux enfants. Donc c'est pas pour que madame aille s'acheter des vêtements. Mais si véritablement...
Sauf peut-être Laetitia Hallyday.
Oui, éventuellement, mais là on est sur une autre planète. Voilà, moi je l'ai pas encore comme cliente. D'ailleurs, si elle écoute, elle peut me contacter. Hein, je serais plus compétent que ses avocats là. Hein, donc elle n'hésite pas. Voilà, donc le message est lancé. Donc si vous avez fait tout ça... Et que le type est tellement malin que j'allais presque dire que tout glisse sur lui et qu'on ne peut pas saisir quoi que ce soit, vous avez l'arme nucléaire qui consiste à prévenir le Trésor public. Pourquoi ? Parce que le Trésor public lui a accès à tous les fichiers. Le Trésor public, si demain monsieur entre guillemets disparaît dans la nature ou essaie de jongler avec différentes adresses, le Trésor public lui il aura accès à ces fichiers et le Trésor public peut localiser monsieur et donc faire en sorte que vous puissiez vous exercer des procédures sur monsieur qui habite bien à telle ou telle adresse et qui va pas systématiquement déménager. Et là, on parle que de l'aspect purement civil. Il faut savoir que si on ne règle pas la pension alimentaire, eh bien, c'est une infraction pénale. On appelle ça un abandon de famille. Et je peux vous assurer que les tribunaux font pas de cadeau par rapport à ça. C'est-à-dire que lorsqu'un tribunal correctionnel, en tout cas lorsque on justifie auprès d'un tribunal correctionnel que madame, alors ça peut être monsieur, mais je vais prendre le cas le plus général, que madame a passé son temps à courir après monsieur, que ça lui a coûté de l'énergie et de l'argent, eh ben le tribunal correctionnel ne fait pas de cadeau. Donc il y a des sanctions pénales en la matière. Et quand vous avez une épée de Damoclès sur la tête, pénalement parlant, en règle générale, on réussit quand même à débloquer un peu la situation. Maintenant, encore une fois, on est dans un véritable conflit avec un peu d'intelligence, et sincèrement, les avocats ne font pas du conflit pour du conflit, avec un peu d'intelligence, quand on contacte les uns et les autres, on essaie quand même, autant que faire se peut, de trouver un terrain d'entente. Faut pas oublier que tout ça concerne des enfants, et que les enfants sont aussi minés par ce genre de situation, et que le rôle des parents, même quand monsieur et madame ne se supportent plus, c'est de faire en sorte de préserver les gamins.
Alors, quelle incidence ça, maître Serran, sur les demandes de régularisation?
Alors ça, c'est important, parce que vous avez un enfant, alors que vous soyez marié ou pas, et vous êtes en situation irrégulière, vous avez la possibilité de demander, en tout cas d'engager une procédure de régularisation par rapport à cet enfant. Mais on va pas, entre guillemets, comme ça, vous croire sur parole, c'est-à-dire que les autorités préfectorales, ce qu'elles souhaitent savoir, c'est un, d'abord, est-ce que cet enfant éventuellement a été reconnu? Alors vous me direz, il peut y avoir des reconnaissances fictives. Mais en dehors de ça, on va vérifier si cet enfant, vous lui versez une pension alimentaire, si cet enfant, vous le recevez régulièrement. En gros, si vous vous comportez comme un parent. Donc le fait simplement de dire, j'ai un enfant, et puis cet enfant, vous le voyez jamais, vous ne versez jamais rien pour votre enfant, c'est nuisible pour votre propre dossier. Donc j'allais presque dire, quand bien même vous seriez amené à détester ce gamin, et certains gamins méritent qu'on les déteste, quand bien même vous seriez amené,
jamais.
Bon, dites-vous que, et raisonnez de manière, pardon, mais de manière même égoïste, ça va vous rendre service. C'est-à-dire que le fait de justifier que vous réglez une pension alimentaire, si, parce que souvent on me dit, ouais, mais on n'a pas de compte bancaire. Si vous réglez en espèces, un petit mot de la part de madame, vous lui faites signer en disant, j'ai bien versé tel montant. Sinon, il n'y a pas mieux qu'un virement ou qu'un chèque, évidemment, parce qu'il va falloir le prouver. Mais ça, c'est important. Si vous êtes en situation régulière et que vous essayez d'obtenir une régularisation par rapport à un enfant, évidemment que les autorités préfectorales vont s'intéresser à cette relation entre le père ou la mère, peu importe, et l'enfant. Est-ce que vous en occupez ou pas? Si vous pouvez justifier de rien, il est certain que la réponse sera de facto négative.
Bien, donc c'est important. Je rappelle que si vous souhaitez poser vos questions à Maître Serran, vous pouvez le faire par l'intermédiaire du standard de l'émission 01 53 48 3000 et Maître Serran répondra à vos questions dans un instant, 01 53 48 3000. Si vous ne souhaitez pas passer à l'antenne, vous pouvez également appeler Maître Serran sur son téléphone portable.
Directement au 06 62 58 59 64. Alors attendez la fin de l'émission. Hein.
C'est mieux.
06 62 58 59 64.
Voilà, et vous pouvez également lui envoyer un email.
C'est tout à fait possible sur maître.serhane@gmail.com.
Voilà, et Maître Serhane répond donc à vos questions dans un instant, 01 53 48 3000.
À votre service, reviens dans un instant. 9h-10h, à votre service avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Et vous avez de la chance, puisque le vendredi, enfin de la chance, oui, beaucoup de chance, énormément de chance, puisque le vendredi,
je préfère. C'est
Maître Serran, et j'essaye de doser les effets, Maître Serran, et puis de vous restituer dans vos compétences. Maître Serran répond à vos questions, 01 53 48 3000, questions juridiques, bien sûr, pas capillaires.
Non, on va éviter.
Hein. Alors c'est Ben qui est avec nous, et Ben est à Toulon. Ben, bonjour et bienvenue.
Bonjour Philippe.
Bonjour Ben, je vous présente Maître Serran.
Bonjour Maître Serran.
Bonjour Ben.
Oui, je vous appelais pour une question par rapport à un visa à court séjour.
Dites-moi.
En fait, je voudrais faire venir quelqu'un de très proche là pour 3 mois, un court séjour. Et je voudrais savoir un petit peu, si la personne ne retourne pas à la fin de son visa, que se passe-t-il pour moi ?
Pour vous ?
Ouais, oui, bon, alors d'abord, pour, on va d'abord raisonner par rapport à la personne, c'est-à-dire que si la personne ne retourne pas, donc elle devient une personne en situation irrégulière.
Oui.
Il n'y a rien qui interdirait, alors j'ai pas, hein, au moment où je vous parle, en tout cas au sein de mon cabinet, j'ai pas de dossier où l'administration a ou aurait engagé la responsabilité de la personne qui fait les démarches en disant « écoutez, moi je suis prêt à accueillir Monsieur X ou Madame Y ». Je me dis que juridiquement, il n'y a rien qui l'interdirait. Pourquoi pas? Alors après, c'est une histoire de preuve, parce que si vous dites « mais cette personne, oui, elle est venue et puis elle a décidé de partir, ouais, vous ne pouvez pas l'attacher à votre domicile ». Mais je dis, au bout d'un moment, il risque d'y avoir un retour de bâton. Alors, vous savez, il suffit d'une petite modification de la loi pour faire en sorte que celui qui s'est engagé à doit assumer ses responsabilités jusqu'au bout. Mais pour l'instant, vous pourriez faire ça, entre guillemets, en toute tranquillité. Mais bon, vous avez bien compris que la difficulté... Ce sera pas tant pour vous, mais pour cette personne-là. Ça veut dire qu'elle va être en situation irrégulière. Ensuite, bon, elle va peut-être déposer un dossier auprès des autorités préfectorales. Les autorités préfectorales vont évidemment lui demander dans quelles conditions elle est venue. Et puis, le fait de dire « je suis venu comme touriste et puis je me suis maintenu », ouais, ça aide pas pour une régularisation.
Maintenu ou même peut-être marié.
Ouais, ou, ben. Voilà. Ou après il y a cet aspect-là, c'est-à-dire que c'est vrai qu'on on a parfois des personnes qui disent bon ben moi je me suis marié. La réponse des autorités préfectorales étant de dire ben écoutez vous êtes marié, il y a une procédure qui s'appelle le regroupement familial, retournez au pays. Et puis, faites la procédure de regroupement familial. Donc, il est certain que... Alors, ça, c'est la loi. Hein, c'est quand la préfecture dit ça, elle ne ment pas. La difficulté, c'est que si la personne retourne au pays, évidemment, les autorités françaises vont se souvenir de, entre guillemets, de la trahison. Et je peux vous assurer que le regroupement familial, vous pouvez toujours attendre. Il y a quand même une parade. Le regroupement familial peut se faire du territoire français. Souvent, la préfecture dit, écoutez, retournez au pays, on verra. Et elle oublie de rajouter que juridiquement, c'est possible de faire une demande de regroupement familial du territoire français. Le seul truc impératif...
Même si on est sur le territoire, donc en situation irrégulière, d'accord.
Voilà, complètement, là, il n'y a pas de difficulté. C'est vrai que ce qui est impératif dans ce genre de procédure, c'est qu'il faut à un moment de sa vie que la personne soit rentrée avec un visa, qui soit expiré depuis 4 mois, 2 mois, 1 an, peu importe. Il faut au moins ça, c'est très difficile, pour pas dire impossible, de régulariser des personnes qui sont venues sur le territoire français et qui ne justifient d'aucun visa. Ça, c'est très compliqué, parce qu'il y en a, voilà, par mille et une filières. Mais, alors ça se gère, hein, je dis pas que ça va être simple pour la personne, mais voilà, techniquement, alors c'est long, évidemment, mais après, ça se gère. Mais au moment où je vous parle, enfin voilà, la police va pas débarquer chez vous. Pour vous dire, cher monsieur, vous avez dit ça, et puis la personne ne respecte pas
sauf,
son visa.
Sauf si on précise l'adresse de Ben à l'antenne.
Par exemple, c'est-à-dire celle qui s'affiche. Voilà, ouais, parce que vous êtes au point, tout
parce
s'affiche.
Là, sur l'écran, on a l'adresse, on peut la donner.
Bon, bah écoutez, alors au revoir Ben. Bon, vous pouvez toujours me contacter quand vous serez à Fleury ou ailleurs. Mais donc, en tout cas, voilà, à votre niveau, pas de difficulté. Mais je le redis, en tout cas, pour la personne concernée... Évidemment, elle est partie dans pour une bataille qui va durer quand même plusieurs mois, pour ne pas dire années. Hein.
Ah, attendez, parce que Ben. Ben est là, mais il est voilà, Ben.
Oui, voilà.
Bien. Est-ce que Maître Serran a répondu à votre question, Ben?
Ah, oui, c'est très clair, c'est parfait comme d'habitude.
Écoutez, merci à vous, Ben. Ça fait plaisir d'avoir cette reconnaissance des auditeurs, voyez.
Surtout tout le monde.
C'est vrai.
Non, c'est
merci
très
à
clair,
vous.
Je vous écoute tout le temps, il n'y a pas de souci, c'est parfait. Merci
bon,
beaucoup,
ben, écoutez.
Merci, Ben.
Merci à vous, Ben.
À bientôt.
Bonne journée à vous.
Merci bien, Ben. Au revoir.
Merci, au revoir.
01 53 48 3000. Lamia est avec nous. Lamia, bonjour et bienvenue.
Oui, bonjour, voilà, j'appelle notre référente, c'était pour un renseignement. Oui. Voilà, je suis en attente de divorce avec mon ex-mari, et j'ai porté plainte parce qu'il ne paye pas la pension alimentaire. On est passé en jugement pour non-paiement de pension alimentaire, il a pris 2 mois de sursis, et je voudrais savoir, s'il ne paye toujours pas la pension alimentaire, quel recours je dois faire.
Alors, 2 mois de sursis, il faut savoir que, le principe du sursis, c'est en gros... Je suis le magistrat et je dis à monsieur, bon, voilà, vous avez fauté, mais je vous mets une sanction. Mais si demain vous recommencez, le sursis, il tombe. Donc c'est vraiment un avertissement et c'est quand même un avertissement qui est sérieux. Donc si demain il y a le même comportement de la part de monsieur, bah il faudra pas hésiter à nouveau à redéposer plainte, hein, la mienne. Et puis dans ce cas, je peux vous assurer que la juridiction ne fera pas de cadeau. C'est-à-dire que le magistrat peut essayer de comprendre une situation, alors financière difficile ou pas, ou même s'il y a de la mauvaise foi, dire voilà la sanction. Mais au bout d'un moment, on peut pas, parce qu'après, vous voyez, si vous engagez une deuxième procédure, le juge va avoir quoi comme réaction? Il va se dire que ce monsieur se fout de la justice. Et ça, c'est pire que tout. C'est pardon.
Sachant qu'on n'est toujours pas...
Ils sont en instance.
Bah oui, et alors, il n'y a pas de difficulté. Vous avez quand même une première audience ou pas?
Oui, on a une première audience.
L'ordonnance de non-conciliation.
Oui, on a qu'une
ordonnance de non-conciliation. Le magistrat donc a condamné monsieur à vous payer, alors soit à vous, soit aux enfants, une pension.
Aux enfants.
Voilà, donc et monsieur n'a pas payé.
Non, et monsieur a cessé son activité.
Voilà.
J'ai fait saisie sur salaire.
Alors après, voilà, alors il y a ce qui s'appelle aussi... parfois effectivement la personne est en situation financière difficile. Maintenant, si c'est son activité, c'est qu'il organise son insolvabilité.
Oui,
c'est-à-dire qu'il fait en sorte
Est-ce que c'est le cas? Voilà. Est-ce que la personne
C'est-à-dire qu'après, si c'est le cas, alors il faut que ce soit prouvé autre. Mais vous me dites.
Ce qui veut dire que l'AMIA peut-être qu'il a organisé une autre activité à côté.
Non, il a toujours pas repris de travail.
Mais la procédure dont vous me parlez devant le tribunal correctionnel. Il en est ressorti quoi? C'est-à-dire que, le magistrat, il n'a pas été convaincu par la bonne foi de monsieur.
Il a pris 2 mois de sursis.
Ouais, donc c'est que le magistrat n'a pas été convaincu par l'argument de monsieur qui consiste à dire, en gros, c'est pas de ma faute, mon activité périclite ou ne fonctionne pas.
Oui, c'est ça, il a pris 2 mois de sursis, il doit aussi 1 euro de dommages et intérêts.
Oui, alors, honnêtement, au niveau des dommages et intérêts, voilà, c'est par principe, mais la réponse que je vous apportais tout à l'heure s'applique même si on n'est pas définitivement divorcé. C'est-à-dire que, à partir du moment où il y a une décision qui condamne monsieur à régler, vous allez devant le tribunal, il a 2 mois de sursis, donc une épée de Damoclès sur la tête, et puis le type ne comprend pas, il recommence à nouveau à ne pas régler. Il n'y a rien qui vous interdit de déposer une nouvelle plainte. C'est-à-dire qu'il faut savoir quand même que le sursis, par définition, il peut tomber à un moment. Si monsieur ne comprend pas ou ne veut pas comprendre.
Oui, parce qu'il ne m'a toujours pas payé la pension alimentaire depuis le début. Et puis là, c'est ce que je me posais la question.
Et les voies d'exécution, compte bancaire et tout ça, il a fait en sorte que tout ça reste à zéro.
J'ai donné le nécessaire à la CAF, mais la CAF n'a toujours rien fait.
Bon, alors après, voilà, ce serait pas sérieux de ma part de dire, tiens, la CAF est compétente ou pas. Toujours est-il, je vais au moins leur reconnaître ça, c'est-à-dire qu'ils ont accès à tous les fichiers, qu'ils ont quand même, Philippe le disait tout à l'heure, un site internet qui est bien ficelé. Après, je peux pas vous dire d'une CAF à une autre, tiens, ils vont vite ou ils vont pas. Bon, alors ils vont jamais assez vite, hein, évidemment, dans ce genre de situation, quand on est concerné, mais ce serait pas sérieux de ma part de vous dire, bah oui, non, ils foutent rien. Non, la CAF fait quand même le nécessaire. Il y a un paramètre qui est aussi le nombre de dossiers à traiter. Hein. Donc, il faut au moins leur reconnaître ça. Mais si vous voyez que sur un plan pénal, manifestement, ça ne le fait pas réagir et qu'il a un sursis sur la tête, il n'y a rien qui vous interdit de... Si le mois suivant, il n'a pas réglé, il n'y a rien qui vous interdit de redéposer plainte.
D'accord.
Voilà, Lamia.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci, Lamia, pour votre question. À bientôt. Ayoub est au 01 53 48 3000. Ayoub, bienvenue.
Oui, bonjour à tous.
Bonjour Ayoub.
En fait, j'avais une question par rapport à la naturalisation.
Oui.
Moi, j'ai un cas assez pas très fréquent, si vous voulez, parce que je suis venu quand même en France très jeune. Hein, j'avais même pas 2-3 mois, je crois, à peu près. Et j'ai fait toute ma scolarité ici, sauf qu'à 18 ans, je n'ai pas fait les démarches de naturalisation. Donc, j'ai fait juste ma démarche de carte de séjour. Aujourd'hui, j'ai 30 ans, je n'ai pas de délit à mon compte, je n'ai pas de casier judiciaire, ni rien du tout. Et la question que je me posais, c'est que par rapport à mon profil, qu'est-ce qui ferait que ma naturalisation serait refusée, par exemple?
Oh, alors faudrait être un magicien pour répondre à cette question, parce que il n'y a pas de limite concernant la mauvaise foi des administrations, je vous assure. Je crois qu'on l'avait évoqué la semaine dernière. Vous voyez, par exemple, en tout cas, moi, c'est arrivé à l'un de mes clients il y a pas si longtemps que ça. J'ai un client qui est convoqué au commissariat parce qu'il a déposé plainte, on lui a volé sa voiture. Bon, on se dit, a priori, le type, il est déjà victime. Vous voyez, donc on lui vole sa voiture, il va au commissariat.
D'accord.
Bon, Et puis, réponse des autorités administratives, il y a une plainte qui avait été déposée contre vous. Donc, alors que la plainte n'a pas été déposée contre lui, c'est lui qui a déposé plainte. Et ces petites mentions, quand vous allez au commissariat, alors que vous soyez auteur des faits, mais pas condamné, vous voyez, je sais pas, par exemple, une garde à vue, ou que vous soyez parfois la victime, toutes ces petites mentions vont apparaître dans un fichier qu'on avait déjà évoqué au sein des émissions qui s'appelle le Judex. C'est-à-dire que, quelle que soit votre démarche auprès d'un commissariat, d'une gendarmerie, il y a un fichier qui va recenser que Monsieur X est venu un jour et puis il a dit ça. Donc c'est vrai que quand on demande à bénéficier de la nationalité française, il y a une vérification qui est faite sur ces fichiers. Ce sont des fichiers qui sont rarement, pour ne pas dire jamais, rectifiés. Une fois qu'il y a une mention, un reste, j'allais presque dire parfois quasi ad vitam aeternam. Et donc l'administration invoque parfois des petits trucs de cette nature que le client a lui-même oublié. Donc c'est pour ça que je vous dis... Il y a pas de limite dans la bêtise de l'imagination, dans l'imaginaire de l'administration. Donc, ce serait pas sérieux de vous dire, écoutez, voilà ce qu'il pourrait invoquer. Il pourrait invoquer n'importe quoi. Et très souvent, c'est n'importe quoi qui est invoqué en disant, bon, bah, peut-être que le type, il va pas contester. Donc après, c'est simple. C'est-à-dire que si vous avez évidemment l'impression que c'est un argument qui est, c'est un truc qui est sérieux et vous savez très précisément de quoi on parle. Bon. Vous avez le droit de dire, bon, bah voilà, je laisse tomber, je passe à autre chose. Maintenant, si on invoque un truc qui vous rappelle strictement rien, eh ben faut pas hésiter à batailler. Mais voilà, ce serait pas sérieux de ma part de vous dire, écoutez, ils peuvent invoquer ceci ou cela. Ils pourraient, par exemple, invoquer, alors je sais pas si vous êtes marié, mais quelqu'un qui serait marié avec une personne qui a été en situation irrégulière ou qui est encore en situation irrégulière, d'accord. Ça, on va vous le jeter en pleine face en disant, oui, d'accord, vous êtes carré, mais... vous vivez ou vous êtes marié avec une personne qui a ceci ou qui a cela. Ouais, c'est ça qui est un peu compliqué. Ouais, c'est-à-dire qu'il faut que vous soyez vertueux, mais votre entourage aussi. En tout cas, votre moitié aussi doit être vertueuse. Il faut qu'elle ait rien à se reprocher. Donc c'est Donc ouais, c'est toute la difficulté.
Si je peux vous donner je vais faire brièvement. Il y a personne de mes frères et sœurs qui n'a été condamné pour quoi que ce soit. Je ne suis en couple avec personne pour le moment. J'ai toujours vécu en France depuis mes 3 mois, et j'ai toujours eu ma scolarité ici, je n'ai jamais eu de casier judiciaire ni quoi que ce soit. Dans un profil comme le mien, quelles sont les chances pour moi de...
J'aurais envie de dire que compte tenu du profil, je vois pas de motif sérieux qui pourrait être soutenu par l'administration pour vous refuser, sincèrement. Maintenant, la bêtise humaine n'a pas de limite. On en a des dossiers comme ça où le client vient nous voir, il nous expose sa situation et on lui répond « Non, mais vous inquiétez pas, le truc est carré » et puis boum, on reçoit un coup de gourdin sur la tête et c'est refusé pour un motif stupide. Mais objectivement, ce que vous êtes en train de me décrire, j'ai envie de vous dire, écoutez, allez-y tranquillement et puis... En même temps, vous n'êtes pas obligé de tomber sur le plus pénible des pénibles des administratifs. Donc, vous réunissez les conditions qui me font dire qu'a priori, il n'y a pas de difficulté.
Est-ce que d'un département à un autre, ça peut jouer ?
Souvent, on cite le département du 93. Vous savez, en fait, c'est simple. C'est-à-dire que les départements où il y a une forte concentration... de personnes de nationalité étrangère, quand on peut, alors c'est pas sympa ce que je dis, mais quand on peut les éviter pour engager des procédures de cette nature, vaut mieux les éviter. À ma grande surprise, enfin une demi-surprise, il y a le Versailles par exemple. Je vais pas dire qu'ils sont plus cool que les autres, mais ils prennent le temps de regarder le dossier. Même quand les avocats contactent la préfecture de Versailles, ils nous font la politesse de nous répondre. Et je peux vous assurer que pour avoir certaines préfectures, il faut batailler. Ou alors l'avocat est obligé d'aller sur place. Mais oui, Versailles est très, entre guillemets, très sympa comme préfecture. Le terme sympa n'est peut-être pas approprié, mais moins pénible. Moins pénible.
D'accord.
Bon. Mais il y a une question de domiciliation. On choisit pas n'importe quelle préfecture.
Voilà. On fait pas du nomadisme.
C'est-à-dire que c'est aussi en fonction de votre domicile et autres. C'est-à-dire qu'on dit pas, tiens, je vais aller à Versailles ou ailleurs parce qu'a priori ils sont sympas. Évidemment, c'est en fonction du domicile de l'intéressé.
Bien, en tout cas, Youp, tenez-nous informés. Merci pour votre question. Maître Serran répondra à d'autres questions dans un instant. Je vous rappelle que si vous voulez l'interroger et avoir la chance de lui parler dans un instant, c'est le 01 53 48 3000, Maître Serran, que les auditeurs composent de partout dans le monde, en France.
Oui,
01 53 48 3000, New York, dans un instant avec vous.
À votre service, reviens dans un instant.
Parle de droit hein, le vendredi avec Maître Serran. Oui, à ce qui paraît. Et on en parle beaucoup dans les radios concurrentes. Là, Julien Courbet est en train de trembler. D'ailleurs, il vient de prendre l'antenne sur RTL. Il dit, il est bien votre avocat.
Ouais, je
vais le prendre, sinon il est beaucoup trop cher.
Non, non, c'est pas possible.
Déjà, on a des frais de coiffure qui ne...
Ouais.
20 euros.
20 euros.
Maître Serran, avec ce que vous avez sur la tête, vous payez 20 euros.
C'est-à-dire qu'on est obligé de dire à tous nos auditeurs... Que j'ai été chez le coiffeur et que le coiffeur, j'ai failli le poignarder.
Voilà, il vous a pris 20 euros.
Ah ouais, parce qu'il me dit en plus, vous voulez un shampoing.
Ouais, après, il a voulu vous faire un brushing.
Ouais, exactement, qu'est-ce que tu veux un shampoing sur un caillou, c'est n'importe quoi.
Après, il vous a dit, je vous fais l'arrêt sur le côté.
C'est vrai, mais c'est quand je faisais le poirier, ça. Si vous voyez ce que je veux dire. Bon. Non, mais c'est-à-dire qu'au bout d'un moment... Non, mais c'est terrible, ça, je te jure. C'est-à-dire que... Mais ceux qui
prévenez-moi, Maître Serran.
Non, mais voilà. Mais ceux qui sont chauves se rendent compte. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, t'as plus de poils au niveau de ton derrière que sur la tête. Ça, c'est... Quand on est là, c'est que...
Mais pour 20 euros, non, il exagère, quand même.
Franchement, ouais. Ouais. Franchement, ouais. Et il faisait semblant d'aller tout doucement, tu vois, pour essayer de justifier ses 20 euros.
Bon.
Escroc.
Ah non, il a gagné sa journée. Voilà. Hein. Bien, alors, on va pas tout de suite à New York, on va d'abord passer par Grenoble, et c'est Belaïd qui est avec nous. Bonjour et bienvenue.
Oh.
Belaïd.
Oui, allô, bonjour.
Voilà, bonjour et bienvenue, Maître Serran vous écoute.
Oui, j'aimerais bien poser une question à Maître...
Alors, vous allez pouvoir poser votre question à Maître Serran. Est-ce que vous voulez bien enlever le kit main libre ou le haut-parleur?
Oui, c'est bon, je l'ai enlevé, c'est bon.
Voilà, Maître Serran vous écoute. Alors, allez-y.
Oui, excuse-moi, en fait, j'aimerais bien poser une question. En fait, c'est par rapport au regroupement familial. Ça fait 2 mois que j'ai fait un recours au tribunal administratif, mais j'ai pas encore la réponse.
Oh, il y a rien de surprenant. C'est-à-dire que vous avez fait la demande, ça vous a été refusé, et puis vous avez engagé donc un recours devant le tribunal administratif. Alors, quand on fait les recours, le tribunal administratif vous envoie un petit code. Vous voyez de quoi je parle? C'est-à-dire que si vous voulez accéder à votre dossier, voilà.
Ouais, c'est toujours en cours, ouais.
Bon, alors quand c'est comme ça, c'est-à-dire que en règle générale, le tribunal demande à l'administration de répondre à la requête, c'est-à-dire aux arguments de votre avocat, si vous avez un avocat ou de vos propres arguments.
Oui, avec un avocat, oui.
Et quand vous êtes sur cette page, sur ce site, vous voyez que le tribunal accorde un certain délai. Alors, des fois, c'est 15 jours, des fois, c'est 2 mois, 3 mois, peu importe. Mais si vous voyez que le délai qui a été accordé à la partie adverse est expiré ou largement expiré, rien n'interdit à votre avocat de demander au tribunal de clôturer l'affaire, c'est-à-dire de dire au juge, bon, l'administration veut pas répondre à mes arguments, je vous demande, en tout cas, je vous indique que nous, on est prêts, clôturer l'affaire, et puis ça va déjà inciter le tribunal donc à fixer, en tout cas, une date d'audience. Donc, il faut prendre ce genre d'initiative. Vous êtes toujours là?
Oui, je suis
là. Voilà. Donc, alors, demandez à votre avocat, enfin, a priori, il doit le savoir, mais vous demandez à votre avocat d'informer la juridiction et de dire, ben, nous, on est prêts, fixez-nous une date.
Mais sinon, à partir de quel délai envisager que c'est mort?
Voilà. Moi, alors que c'est mort, non, c'est, enfin, voilà.
Ils ont combien de temps pour instruire l'affaire? C'est quoi? 12 mois?
Le tribunal administratif, voilà. Il y a pas.
24 mois maximum.
Le tribunal, enfin, il n'y a pas un texte qui dit le tribunal administratif doit aller doit respecter.
Statué dans les 24 ou 36 mois.
C'est-à-dire que ce qu'on fait pour, entre guillemets, j'allais dire forcer un petit peu la main, c'est-à-dire que le tribunal administratif dit au ministère de l'Intérieur, dit à la préfecture, écoutez, répondez aux arguments de Maître Serran, et encore une fois, il fixe un délai. Vous avez 2 mois, 3 mois, 4 mois, peu importe. L'avocat regarde ce délai. Si, dans ce laps de temps, moi, la partie adverse ne m'envoie pas ses arguments, je considère que pour des raisons X ou Y, elle n'a pas envie de répondre, mais dans ce cas-là, j'en informe le tribunal en disant, attendez, vous leur avez accordé tel délai, voilà, par exemple 3 mois, ils ne répondent pas dans les 3 mois, moi de mon côté je suis prêt, je vous demande de clôturer l'affaire, de nous fixer une date d'audience. Mais ça, faut le faire, parce que si vous le faites pas, spontanément, le tribunal, il va pas toquer à votre porte et dire, tiens, le type en face, il répond pas, est-ce que vous voulez que je rende une décision? Donc, c'est à l'avocat, quand même, de prévenir la juridiction et de dire, clôturez l'affaire, c'est-à-dire, donnez-nous ensuite une date d'audience. Faut prendre ce genre d'initiative. Ça okay. permet d'accélérer quand même un peu la procédure.
C'est-à-dire qu'il faut que je demande à mon avocat qu'il va clôturer la...
Sauf évidemment si vous dites, attendez, j'aimerais rajouter des choses. Mais si vous me dites que pendant tous ces mois, il a rien rajouté d'autre, ça sert à rien de laisser l'affaire telle que, vous demandez, l'avocat demandera au tribunal de clôturer le dossier. Clôturer, oui, ça veut dire, écoutez, nous on n'a plus rien à dire. Et en face, manifestement, oui. ils n'ont rien à dire non plus, donc donnez-nous une date d'audience.
Mais j'ai juste une autre question. En fait, maintenant, les avocats, on est devenus vraiment comme des numéros. Ils appellent pas, ni répondent à rien du tout. Il n'a même pas une fois ton téléphone d'appeler, de voir des nouvelles. Mais le problème, c'est nous, on ne cherche pas. Mais le problème, c'est clair, ils ont des centaines de dossiers, des avocats. Mais maintenant que je rapproche aux avocats, on dirait maintenant on est des numéros, on est des dossiers dans leur terroir.
Je vais vous dire quelque chose. C'est-à-dire que, vous voyez, je ne vais pas m'exonérer de tout ça. Ce serait pas sérieux, monsieur, de vous dire que quand je fais ce genre de procédure, j'appelle tous mes clients pour leur dire « Bonjour, monsieur, j'ai pas d'informations à vous donner ». Vous voyez, c'est-à-dire qu'en vérité, l'avocat contacte le client quand on a un élément nouveau, que ce soit de la partie adverse, d'un tribunal. Mais je vous mentirais en vous disant « Écoutez, bonjour, c'est Maître Serran, il se passe rien dans votre dossier, j'ai pas eu de documents ». Donc l'avocat fait la démarche quand il a quelque chose à dire au client, et ça me semble normal, sinon c'est ingérable. Maintenant, c'est à l'avocat, il a même pas besoin d'avoir votre avis, j'allais dire. S'il voit que le tribunal a accordé 4 mois à la préfecture pour répondre et qu'au bout du 5e mois, la préfecture ne répond pas, il n'est pas obligé d'attendre 1 an, c'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, il envoie un mail, un fax au tribunal pour dire, voilà, le délai que vous avez accordé est expiré, je vous remercie d'en tirer des conséquences et de nous fixer une date.
Bon, enfin, ce que dit Bélide, c'est que finalement, de son point de vue, l'avocat ne consacre peut-être pas suffisamment de temps ou ne serait pas suffisamment disponible pour ses clients.
Voilà,
c'est quelque chose qu'on entend quand même.
Bien sûr qu'on l'entend et ce serait pas sérieux de dire, écoutez, c'est le client qui est compliqué ou pénible. Non, mais bien sûr. Après, voilà, c'est impossible d'abord d'en faire une généralité, ce serait pas sérieux, mais oui, ça existe. Mais il existe aussi la possibilité, quand on est déçu, de changer d'avocat.
Merci Bélide pour votre question, direction Toulouse. Nazim est avec nous au 01 53 48 3000. Bienvenue Nazim.
Oui, bonjour Philippe, bonjour Maître.
Bonjour Nazim.
Bonjour. J'ai une question un petit peu bizarre, mais il faut que je la pose quand même. En fait, je me suis marié avec une personne qui est de l'autre côté de la Méditerranée. On n'a pas fait de contrat au début, on n'a rien du tout. Et après un certain moment, ma femme, pour me rassurer, a voulu me faire un document chez le notaire pour me dire, tiens, je ne me suis pas marié avec toi pour les papiers ou quoi que ce soit. Est-ce que c'est valable ou pas? Elle a mis pas mal de choses. C'est comme preuve que voilà, je ne me suis pas marié avec toi.
Je
suis le notaire au pays, quoi.
Bah, c'est la première fois, en tout cas, Nazim, et vous avez raison de signaler, qu'on entend ce genre de questions.
C'est vrai.
Effectivement, c'est original. Mais comment elle écrit ça, techniquement, au notaire?
Vous vous êtes marié au pays, c'est ça?
Exactement.
Bon, la règle étant que, de toute manière, au pays... Alors, au pays, on parle de quel pays?
C'est un pays d'Algérie.
Bon. La règle étant que, de toute manière, on est dans le cas de la séparation de biens. C'est-à-dire que, vous mariez en France, la règle, c'est les biens communs. Et on doit aller chez un notaire avant pour dire, tout ce que je vais acheter m'appartient qu'à moi, ou si madame achète, c'est que pour elle. Au pays, c'est la séparation de biens. Quand je me marie au pays, c'est pour dire que les biens de monsieur sont à monsieur, les biens de madame sont à madame.
Ouais, exactement.
Donc ça, c'est la règle, voilà. Et madame a fait quoi? Elle a été voir un notaire pour dire que tout ce qu'on achète appartient à tous les deux.
Pas que. Enfin, elle a même mis, en cas de divorce ou quoi que ce soit, elle laisse tomber sa pension alimentaire. Elle a mis le paquet, quoi.
Il y a peut-être.
Je n'ai rien demandé, juste pour préciser, je n'ai absolument rien demandé.
Non, mais je suis pas en train de supposer que vous l'auriez menacé.
C'était spontané.
Le notaire est peut-être votre frère. Non, je sais pas ce que je dis, c'est spontané,
mais
c'est tant mieux.
Quelle est la validité de ce genre de document?
Sincèrement, encore une fois, c'est ce que j'allais vous dire. Vous imaginez bien que si demain, il y a entre guillemets un litige avec les autorités françaises concernant une histoire de régularisation ou autre, ouais. Ce document n'est pas opposable. Ça vaut ce que ça vaut. J'allais presque dire. Alors, voyez, c'est, selon moi, c'est même contre-productif. Ça sort tellement de l'ordinaire. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'elle veut tellement expliquer la situation, là, dès à présent, pour essayer de se préparer dans l'hypothèse où il y aurait un problème demain ou après-demain.
Exactement.
Voilà, ouais, donc franchement.
On a tellement entendu des choses, même par rapport à la régularisation, par rapport à pas mal de choses. Elle a voulu faire des choses. En avant pour dire.
Ouais, mais je elle est peut-être trop en avance.
Moi, je pense que c'est l'expression de l'amour, Maître Serrane. Vous avez vraiment l'esprit tordu. C'est l'expression d'un amour, ça.
Deux fractions de seconde. Laissons l'amour de côté. Et raisonnons de manière plus pragmatique. Selon moi, je sais pas si ça peut vous aider. Franchement, je crois que ça va même susciter la curiosité des autorités préfectorales et ils vont considérer qu'en gros, tiens, ils essaient de faire les malins. Donc, je sais pas si c'est intéressant de mettre ça en avant, franchement.
D'accord.
Ouais, c'est même, je crois que c'est pas intéressant. Vaut mieux l'oublier. Parce que si je raisonne comme ça, je peux vous assurer que les autorités préfectorales ont un esprit encore plus tordu. Et ça pourrait être mis en avant en disant, tiens, le couple de malins nous a présenté ça. Mais donc, selon moi, vaut mieux laisser tomber, hein.
Bah, en fait, c'est déjà fait.
Ouais, bon, bah voilà, franchement. Fait. Ouais, ouais.
Vous vivez pas avec votre temps, les mecs. Hein.
Ouais.
Ouais, non, franchement pas. Non, attendez.
Non, mais ça sent le truc, ça sent mauvais, quoi.
Ouais. Ah, bah, quand je le reprécise, je n'ai absolument rien demandé.
Ah non, mais je.
Elle en a tellement entendu. J'entends bien. Mais dit, écoute, je veux te rassurer que ce soit toi, que ce soit l'administration. Ouais.
Mais allez, vous avez le même âge.
Pardon ?
Vous avez le même âge, elle est plus âgée que vous.
Mais c'est de quoi je me mêle.
On a 2-3 ans d'écart, je suis plus âgé qu'elle.
D'accord, bon, non, mais parce que, ouais, s'il me dit que madame a 10 ans de plus, ça sent le coup fourré. Mais là, d'accord, dans tous les sens du terme.
Plus que madame.
Voilà. Mais là, d'accord, non, non, enfin, objectivement, je crois que vous n'avez pas besoin, franchement, de faire ce genre de choses, et je vous dis, pour moi, c'est contre-productif.
D'accord.
Ouais, ouais, faites engager la procédure normalement. Voilà, sans verser ce genre de document et a priori, il y a aucune raison que ça se passe mal. Bon, mais ça va pas vous aider. Hein.
Ok, on demande pas à être aidé, mais connaissant les procédures.
Non, mais voilà, vous comprenez ce que je veux dire, c'est-à-dire que c'est, mais c'est pas un document qui pourrait aller dans votre sens. C'est-à-dire la préfecture va pas se dire, tiens, ils ont fait cet effort-là, ok. Donc non, selon moi, je vous dis encore une fois, c'est vraiment contre-productif.
Mais elle est où maintenant, madame?
Bah, elle est toujours au pays, elle n'est pas encore
là. Ah oui, elle n'est pas encore à Toulouse.
Ouais. Voilà. Elle n'est toujours pas là, et voilà. Elle a voulu le faire, elle m'a demandé mon avis, je lui ai dit, écoute, tu fais ce que tu veux, je ne veux pas te t'imposer quoi que ce soit. Voilà, si tu veux le faire, tu le fais, mais bon, après, voilà.
Ouais. Bon, cela dit, on a aussi de très jolies femmes sur le territoire français, hein.
Bah, écoutez, on ne contrôle pas le cœur.
Voyez qu'on en revient à l'amour, Maître Serrane.
Ah bon,
c'est une histoire d'amour.
Bon, ben,
à la Violette de Toulouse.
Je vous souhaite, dans ce cas-là, beaucoup d'amour. Avec
ok, merci beaucoup. merci beaucoup, c'est gentil.
Merci à vous.
Bonne route,
merci.
Nazim.
Merci beaucoup.
À bientôt. Bien.
Merci, au revoir.
Maître Serrane, pour tous ceux très nombreux qui attendent au standard et qui ne passeront pas avec vous cette semaine, d'abord, ils peuvent vous rappeler la semaine prochaine. Et puis, ils ont la chance, l'honneur et l'avantage de pouvoir vous appeler en direct sur votre téléphone portable que vous communiquez à l'instant à l'antenne.
Absolument. 06 62 58 59 64. 06 62 58 59 64. Éventuellement un mail, pourquoi pas, une photo.
Maître Serrane aime bien recevoir du courrier.
Ouais. Maître.serrane, S-E-R-H-A-N-E, @gmail.com.
Vous réécoutez les podcasts quand vous souhaitez, puisque vous n'avez pas votre dose suffisante de Maître Serrane, vous pouvez le réécouter www.beurrefm.net. Vous pourrez noter vos coordonnées, parce que vous êtes nombreux à appeler au standard de Beurre FM toute la semaine pour savoir comment on joint Maître Serrane. Mais là, vous avez toutes les informations sur les podcasts. Et Maître Serrane, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouverai vendredi prochain et dimanche matin. Donc, on sera là en direct.
Inch'Allah.
Dimanche matin, on vous attend. Donc, je vous envoie un petit SMS vers 6h48 pour être sûr que votre chronique est prête pour dimanche matin.
D'accord.
Puisque nous sommes en direct le dimanche.
C'est vrai, je suis heureux.
Bien, je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour vos petites annonces sur Beurre FM.
Retrouvez à votre service tous les jours de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.